France Musique. Musicopolis. En 1922-24, Sainte-Marguerite-sur-Mer, janvier-février 1925, Paris. Le 18 août 1922, Albert Roussel écrit à Louis Fleury. Soyez certain que je n'oublie pas la pièce pour flûte, mais il faut que j'aie un peu le temps d'y réfléchir et de savoir ce que je veux faire. On vous a écrit déjà tant de choses charmantes. En effet, il va falloir 2 ans à Roussel avant de donner enfin satisfaction au flûtiste. Deux ans après avoir signifié au flûtiste Louis Fleury qu'il lui fallait du temps pour réfléchir à une pièce pour son instrument, Albert Roussel a terminé. Nous sommes à présent en automne 1924 et déjà en vue de la création qui pourrait avoir lieu au mois de janvier 25. 2 institutions sont en lice pour obtenir cette précieuse première exécution. La Société Nationale, qui devrait avoir la priorité, en raison de son grand âge, de sa renommée et de sa prééminence dans le paysage musical parisien, et aussi une association beaucoup plus récente, celle des concerts de la revue musicale, qui donne chaque année, grâce au musicologue Henri Prunière, 25 à 40 séances de musique de chambre. Albert Roussel a sans doute travaillé à sa pièce pour flûte destinée à Louis Fleury en août et septembre 1924 dans sa maison de Sainte-Marguerite-sur-Mer, vaste rivale, près de Varengeville en Normandie. C'est de là qu'il lui écrit le 18 octobre 1824. Vous savez, ou plutôt vous ne savez pas, qu'il y a une 4e pièce qui sera d'ailleurs la première et qui s'appelle Pan. Je vous la donnerai aussitôt rentrée à Paris d'ici une dizaine de jours. L'ordre sera Pan, Titir, Krishna, Monsieur de la Péjodie. Nos meilleurs souvenirs pour tous deux, Albert Roussel. Finalement, c'est dans le cadre des concerts de la revue musicale que Louis Fleury va créer la pièce pour flûte que lui a composée Albert Roussel. Le journal Le Ménestrel en rend compte, sans se fouler beaucoup. Un certain A.S. mentionne, je cite, 4 pièces pour flûte et piano intitulées « Joueurs de flûte » et dont M. Louis Fleury et Mme Jeannine Weil donnèrent une excellente exécution. Œuvre d'une extrême légèreté, en particulier le début de Titir, qui évoque la délicatesse de certains dessins sur des vases grecs, les seules œuvres de brève dimension qu'ait peut-être écrite Albert Roussel, qui ne nous fasse point regretter que l'auteur du trio et de grandes œuvres symphoniques ou chorales ait sacrifié au goût du jour pour les futilités et les mignardises. » Il semble que Roussel se soit acquitté avec plaisir de la tâche de composer une pièce pour flûte pour Louis Fleury. Le compositeur fait remarquer au flûtiste avant même de commencer à quel point il aime écrire pour son instrument. Il lui écrit « Vous savez d'ailleurs que de tous les bois, c'est la flûte que j'ai le plus souvent choisie pour des solis dans mes œuvres orchestrales. Le poème de la forêt, le festin de l'araignée, le poème pour une fête de printemps, etc. » Dans le poème de la forêt, sa première symphonie, notamment dans le final, Roussel donne la part belle à la flûte. Bien sûr, la flûte est un instrument assez pastoral qui évoque facilement la nature, mais c'est aussi pour le compositeur une manière d'illustrer le titre qu'il a donné à son mouvement, « Faunes et dryades ». Un titre pastoral, certes, et surtout qui vient tout droit du goût de l'antique. Cette antique qui fait frémir la France à la fin du 19e siècle et au début du 20e dans tous les arts. Pour la musique, il suffit de penser bien sûr au prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy et à tous les Daphnis et Chloé et autres Bilitis. À part ces faunes et dryades, Roussel, lui, s'est peu intéressé pour le moment à cette inspiration antique. Sauf récemment justement, où il a composé pour l'opéra un ouvrage intitulé « La naissance de la lyre » d'après Sophocle. Comme vous l'entendez, cet enregistrement date un peu. Le conte lyrique de Roussel, intitulé « La naissance de la lyre » d'après Sophocle, et qui a pourtant été accueilli favorablement à sa création en 1925, n'a pas eu une carrière bien chanceuse. Et en tout cas, n'a pas été jugé assez commercial pour avoir droit à un enregistrement. C'est donc à la radio que l'œuvre a été donnée en 1952, époque où la radio-télévision française avait pour mission de faire entendre les œuvres rares du patrimoine. Quoi qu'il en soit, c'est ici la première véritable incursion de Roussel dans l'inspiration antique. Il y aura plus tard d'autres œuvres, les ballets Bacchus et Ariane et Énéas. Et donc pour le moment, dans Les joueurs de flûte, la première pièce, Pan. Si l'on en croit les hymnes homériques, Pan est le dieu des bergers, à la splendide chevelure négligée, qui a reçu en partage les montagnes neigeuses et les cimes des monts et les sentiers pierreux. Quelquefois, seul, le soir, au retour de la chasse, il tire un doux chant de ses roseaux, et l'oiseau qui, dans le feuillage du printemps fleuri, fait entendre le chant le plus suave, ne l'emporterait pas sur lui. Est un dieu fantasque, dont Roussel a plaisir à illustrer le caractère. On imagine volontiers cet être hybride, mi-homme, mi-chèvre, s'exprimer par sa flûte et, suivant son caprice, être tour à tour moqueur, espiègle ou séducteur. C'est le seul des quatre joueurs de flûte de Roussel à être inspiré par l'Antiquité grecque. Tityre, le deuxième joueur, qui donne son nom à la deuxième pièce du recueil, vient lui de l'Antiquité latine, plus précisément des bucoliques de Virgile. Couché sous le vaste feuillage de ce être, tu essayes, ô Tityre, un air champêtre sur tes légers pipeaux. Étendu sous de frais ombrages, tu apprends aux échos de ces bois à redire le nom de la belle Amaryllis. Pour le troisième de ses joueurs de flûte, Roussel s'est écarté de l'Antiquité, du moins occidentale. Il nous propose un portrait de Krishna, Krishna aux yeux de lotus bleu, ce héros qui, par sa vaillance et sa vigueur, brille parmi tous autant que le soleil brûlant parmi les astres du ciel. Thank you. Il n'est pas du tout étonnant que Roussel ait consacré à Krishna l'un des portraits de ses joueurs de flûte. Roussel est fasciné par l'Inde. S'il a beaucoup voyagé durant sa première carrière de marin, avant l'âge de 25 ans, c'est pourtant seulement en 1909, à 40 ans, qu'il est parti avec son épouse pour 3 mois en Inde et en Indochine. Un voyage qui l'a fasciné et qui lui a inspiré plusieurs œuvres. D'abord « Évocation » pour orchestre, chœur et soliste, puis l'opéra « Padmavati ». L'opéra de Roussel, Padmavati, inspiré par l'Inde, était presque terminé en 1914. Et il aurait dû être représenté à ce moment-là si la guerre n'était pas advenue. L'achèvement de l'œuvre a été repoussé à 1918 et c'est seulement en 1923 qu'elle a enfin été montée à l'opéra. Lorsque le compositeur se met à ses joueurs de flûte l'année suivante, la grande fresque indienne est encore fraîche dans ses oreilles et ses yeux. Il choisit de donner à son Krishna un aspect très sinueux. Non seulement il emploie un mode aux consonances indiennes, mais il utilise aussi un rythme impair, une mesure à 7 temps, assez rare alors dans la musique occidentale, et qui confère à sa musique un balancement bien singulier. En août 1925, quelques mois après la création de ses joueurs de flûte, Roussel écrit à Louis Fleury. En montrant les joueurs de flûte à un ami violoniste qui voudrait un jour 2 ou 3 pièces, j'ai remarqué que je prenais le milieu de Krishna sensiblement plus vite que ne semblaient le vouloir mes indications. Et somme toute, cela m'a paru mieux ainsi, en ce sens qu'un tempo plus allant que celui que nous avions réglé donne plus de variété et de vie à cette partie médiane et fait mieux ressortir en même temps le retour au lent du début. Je vous laisse donc toute liberté d'animer un peu ce milieu à partir des notes répétées de la flûte. Je crois que vous serez d'accord avec moi, expérience faite. Thank you. La quatrième et dernière pièce des joueurs de flûte de Roussel s'appelle « Monsieur de la Péjaudie ». Ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais c'était le héros d'un roman de Henri de Régnier paru en 1920 et donc un titre susceptible de parler à ses contemporains. Juste après la création au concert de la revue musicale, le recueil est donné à nouveau, cette fois-ci à la Société nationale, le 7 février 1925. Le flûtiste, toujours Louis Fleury, est accompagné cette fois par son épouse, née Gabrielle Monchablon. Et cette fois-ci, c'est Raymond Charpentier qui prend la plume dans le journal Comédia pour commenter cette audition à la fois précise, délicate et nuancée. « Ce sont quatre pièces délicieuses », écrit-il, « encore que d'allures assez diverses. Dans la première, la flûte semble se livrer à de légères improvisations, tandis que dans la deuxième, elle dialogue capricieusement avec le piano. La suivante, d'une jolie couleur, est plutôt mélancolique. Quant à la dernière, qui évoque, paraît-il, le personnage d'un livre de M. Henri de Régnier, elle retrouve sans peine la note gaie, spirituelle et fine. » Dans cette musique, la sûre maîtrise de M. Roussel, toujours présente, se dissimule discrètement. N'est-ce point là l'une des nécessités impérieuses, mais si peu souvent vérifiées, de l'art ? Monsieur de la Péjaudie, le quatrième joueur de flûte d'Albert Roussel, Mathieu Dufour à la flûte, Adrienne Krauss au piano. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Claire Lagarde pour la réalisation et Jean-Michel Bernot pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.